Bien sûr, on peut se croire à l'abri de tout. Tranquille, suivant la file qui est devant vous. Bien sûr, on peut vouloir une autre issue. L'histoire, comme par hasard, n'en dira pas plus. Je vis où tu m'as laissé, comme étranger.
Radio Hop, il est 21h.
Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'écoute de Radio Hop, la radio interne des hôpitaux. Sébastien vous accompagne pour un dernier numéro d'Escapade Céleste, du moins pour cet été. Ce numéro d'Escapade Céleste, comme tous les autres, va vous inviter à découvrir ou redécouvrir le monde fascinant des étoiles, des planètes et des galaxies. Et... comme à mon habitude, pardon, je reçois un invité qui a accepté de venir nous parler de son sujet de recherche. C'est Hervé Dole, qui est astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale qui est à Orsay, dans la banlieue sud de Paris. Hervé Dole, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Alors ce soir, ensemble, je ne sais pas si on va réussir à rafraîchir notre enveloppe corporelle, mais on peut peut-être rafraîchir ce qu'il y a dans le cerveau, là-haut.
Notre esprit.
Est-ce que dans l'espace, d'abord, il fait un peu plus frais qu'ici?
Alors, il fait très froid.
Il fait très froid. Voilà. Donc là, déjà, on est rassuré.
Il fait moins de 170 à peu près degrés Celsius. Donc, il fait très froid.
Peut-être un petit peu trop froid.
Un peu trop froid pour nous.
C'est ça, voilà. Alors, ce soir, avec vous, nous allons nous intéresser aux galaxies, qui sont des vastes structures de l'univers, qu'on peut observer très régulièrement dans le ciel.
Exactement.
Quand on habite, en tous les cas, loin des grandes villes, puisque un objet très important, très imposant du ciel, dans ces conditions idéales d'observation apparaît, c'est une galaxie, c'est bien sûr ce qu'on appelle la Voie lactée.
Exactement.
Alors, est-ce qu'on peut essayer de rapidement définir une galaxie de façon assez précise?
Alors déjà, on peut peut-être parler de la Voie lactée.
Oui.
Si on est dans le sud, par exemple, lors d'une nuit d'été comme celle-ci, ou quand le ciel est très clair, on peut observer dans le ciel une grande bande d'étoiles qui sont toutes les unes à côté des autres et qui forment une grande bande. C'est donc la Voie lactée. Moi, j'ai l'habitude de dire, pour simplifier, qu'une galaxie, donc comme notre Voie lactée, c'est une sorte de pancake ou de crêpe composée d'étoiles, de poussière, de gaz et aussi de matière noire. Bon, c'est des choses qu'on ignore un petit peu, c'est pour ça qu'on appelle ça la matière noire. Mais pour simplifier, c'est beaucoup d'étoiles, du gaz et la poussière sous forme de disque en général, un grand disque.
D'accord. Et là, quand on regarde, nous, à l'œil nu, cette galaxie, cette Voie lactée, on ne voit pas les étoiles de façon dissociée.
On voit comme un nuage, comme d'accord. un gros nuage, une grande bande, comme une grande bande laiteuse, d'où le nom. Hein.
D'accord.
Comme un nuage, exactement, étiré, qui s'étend de part en part sur le ciel, qui traverse d'accord. la totalité du ciel, et qui n'est pas régulière. C'est pas comme une bande de papier qui serait rectangulaire et bien propre. Il y a plusieurs aspérités, plusieurs zones d'ombre et plusieurs zones claires. Mais on voit clairement, si on regarde à la verticale ou vers l'horizon,
On
voit la différence entre la densité d'étoiles qu'il y a au niveau de la Voie lactée. Donc il y a plein d'étoiles qu'on ne voit pas forcément individuellement. Donc c'est cette bande laiteuse. Et puis en dehors de la Voie lactée, on voit beaucoup moins d'étoiles.
D'accord. Donc ça veut dire que toute cette espèce de traînée blanchâtre dans le ciel, c'est de la lumière tout simplement.
C'est de la lumière qui provient des étoiles et de leur, et de leur environnement.
Et donc si au lieu de les regarder à l'œil nu, enfin si de regarder dans cette direction à l'œil nu, je prends un instrument tout bête, une paire de jumelles, trouver des choses intéressantes.
On voit plein de très belles choses. On peut voir tout d'abord beaucoup plus d'étoiles. On verra que...
Il suffit d'avoir vraiment une paire de jumelles, c'est pas nécessaire d'avoir un gros télescope.
C'est pas nécessaire d'avoir un gros télescope.
D'accord.
Une paire de jumelles toute simple permet de voir beaucoup plus d'étoiles qu'à l'œil nu. Et donc il suffit de regarder n'importe où dans le ciel, là où il y a la Voie lactée, et on verra que cette bande laiteuse s'avère une multitude, une somme de points, donc d'étoiles. Et même si on se balade au hasard dans cette Voie lactée, on pourra voir des nébuleuses, des petites zones beaucoup plus ténues, qui ne sont pas des étoiles, mais qui sont des sources un petit peu étendues.
D'accord, c'est un peu du gaz.
C'est du gaz, voilà. Alors ça dépend des objets. Mais c'est en général du gaz illuminé par les étoiles. Et il y a beaucoup de ces objets-là, on va y arriver, dans notre Voie lactée. Donc une paire de jumelles, il a fortiori un télescope, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un télescope. On peut observer beaucoup plus d'objets que ce qu'on voit à l'œil nu. Et c'est assez fascinant. Hein. L'idéal, c'est de se mettre par terre ou sur un siège, parce que ça fait mal au bras. Ça fait mal au bras au bout de 5 secondes, et puis l'image bouge et on voit rien. Donc il faut se mettre vraiment, vraiment au calme par terre, et on voit des choses extraordinaires.
D'accord. Et cette galaxie, bon, alors on le sait, on ne va pas laisser le suspense plus longtemps, mais c'est donc notre galaxie, c'est une galaxie un peu particulière puisqu'on est à l'intérieur.
Exactement.
Est-ce qu'on a une idée de sa taille, de notre position, de ses composantes
On a une idée assez précise maintenant, depuis assez longtemps, grâce aux observations astronomiques variées. Notre galaxie ressemble à une galaxie spirale, c'est-à-dire qu'elle a... si je reprends l'image d'une crêpe, ça serait une crêpe dont on aurait enlevé une partie, et ça formerait comme une étoile de mer.
D'accord.
Mais on tourne un petit peu les bras.
Tourner,
On tourne un petit peu et les bras se tournent. Et donc la matière est principalement dans ses bras. Et nous sommes dans un de ces bras-là. Et on est aux deux tiers du rayon. C'est-à-dire qu'on n'est pas au centre, on n'est pas au bord, on n'est pas... Voilà, on est aux deux tiers.
En train de nous dire que déjà la Terre n'est pas au centre du monde, plus que notre système solaire.
Et aux deux tiers,
d'accord. Bon, c'est triste.
Non, mais c'est marrant. C'est marrant. Alors, la taille de la galaxie, là, c'est à peu près 100 000 années-lumière. Donc, pour donner une idée, si on n'est pas habitué à la distance lumière, il faut savoir que donc, la Lune est à peu près 1 ou 2 secondes lumière.
Alors, c'est-à-dire pour même ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de cette notion-là, on imagine qu'on se déplace à la vitesse de la lumière.
Exactement.
Hein, c'est 300 000 km par seconde.
Exactement.
Dans le vide.
Tout à fait.
Et donc, pour aller de la Terre à la Lune, il faudrait... un peu plus d'une seconde.
Voilà, pour y
d'accord.
aller.
Et pour ensuite, traverser de part en part la galaxie,
il faudrait 100 000 ans.
100 000 ans à la vitesse de la lumière.
Voilà.
D'accord.
Et alors, pour donner une échelle intermédiaire, notre système solaire est à peu près grand de quelques heures-lumière. Donc
d'accord.
il faut quelques heures à la lumière de parcourir tous nos systèmes solaires, d'accord. c'est-à-dire toutes les planètes jusqu'à Pluton, à peu près.
La Terre est à peu près à combien du Soleil ?
8 minutes.
D'accord, donc 8
minutes
c'est
lumière.
Très petit.
Voilà,
c'est...
Non, la Terre est très proche du Soleil, d'accord. mais le système solaire s'étend un peu plus loin. Et puis, l'étoile la plus proche est à peu près 4 années-lumière de nous.
D'accord, donc c'est dans ces 100 000 années-lumière,
voilà.
il y a finalement pas mal de vide alors.
Il y a essentiellement du vide. Et c'est d'accord. ça qui est impressionnant quand on fait de la physique de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, c'est que l'univers est essentiellement vide, il est très peu dense, parce qu'au sein d'une galaxie, il y a beaucoup d'étoiles, il y en a plus de 100 milliards, mais comme elles sont espacées...
100 milliards.
Ouais, voilà.
Beaucoup ça. Mais sur 100 000 années-lumière...
10 puissance 11, ça fait combien ? Ça fait 100...
10 puissance 10, c'est milliards.
Voilà,
c'est
donc 10 puissance 9,
milliards, c'est ça.
Voilà, exactement. Non, je dis pas trop de bêtises encore, ça va, malgré la chaleur. Donc, il y a à peu près 100 milliards d'étoiles qui sont espacées, elles, de 4, enfin plusieurs années-lumière.
Ouais.
Donc, il y a essentiellement du vide. Bon, il y a du gaz, etc., mais c'est très peu dense. Et aussi, à l'échelle atomique, si on s'amuse à regarder les atomes à échelle très...
Alors,
on
remplace le télescope par un microscope assez puissant.
Voilà, même tellement puissant que... Ouais. Voilà. Et bien aussi, la matière à très petite échelle est essentiellement vide entre le cœur et les électrons. Entre le cœur de l'atome et les électrons, il y a plusieurs ordres de grandeur, donc tout ça est vide.
C'est
bon, enfin,
vide.
Ça, c'est plus une considération en passant. Hein. Donc, la galaxie est assez peu dense. Elle est très très grande et peu dense.
Peu dense. Est-ce qu'elle a la forme d'une patate? Vous avez pris l'espace de, tout à l'heure, une forme
crêpe.
De galette, c'est-à-dire
voilà.
qu'on a une idée de son épaisseur?
Oui, c'est plus... Alors oui... Oui, on a une idée très précise, plusieurs kilos par heure. Mais il faut que je convertisse en unité, oui, ça fait quelques milliers d'années-lumière.
C'est quelque chose de relativement plat
par rapport
à la... C'est
très très fin.
Très très fin. Ça a plus une allure d'anneau, comme on a évoqué il n'y a pas très très longtemps les anneaux de Saturne.
Voilà.
Donc c'est très très large, mais finalement très très
fin. Un peu comme une crêpe ou un pancake, ça dépend. Alors, c'est fin comme une crêpe ou un pancake, mais en son centre, quand même, c'est assez sphérique. Il y a un bulbe,
d'accord.
qu'on appelle. C'est-à-dire que les étoiles et la matière se mettent quand même de manière à peu près sphérique. Donc, il y a une sorte de boule au centre.
D'accord.
Et puis après, il y a un énorme disque, tout plat et tout fin.
D'accord. Alors, comment on fait pour compter 100 milliards d'étoiles?
Ah, bah alors là...
Est-ce qu'il y a un astronome qui a compté les étoiles ou on a une technique?
La réponse est clairement non.
Non, d'accord. C'est une estimation.
C'est une estimation, voilà. Tous les chiffres, enfin, une plus grande partie des chiffres en astrophysique provient d'estimations statistiques. C'est un peu comme les sondages.
D'accord.
Finalement, on prend une petite partie du ciel, comme un échantillon d'électeurs potentiels ou ce genre de choses. On prend un petit échantillon.
S'ils sont aussi fiables que les sondages.
Oui, bah voilà. Non, mais c'est pour ça. Là, on essaie d'être beaucoup plus fiables.
C'est dangereux, votre système.
Il y a toujours des modèles sous-jacents, mais là, on prend une petite partie du ciel,
d'accord.
on compte le nombre de galaxies, on multiplie par la taille que ça a, et puis on obtient
d'étoiles. D'accord.
Je fais ça pour les galaxies aussi, mais pour tous les objets astrophysiques, on prend une petite partie du ciel, on compte ce qu'il y a dedans, et on multiplie par le nombre de cases.
Tout ça.
Voilà.
D'accord.
Exactement.
Ok. Alors. Et est-ce qu'on a une idée précise de ce qu'il y a au centre? Vous avez dit que c'est un petit peu plus une espèce de sphère. Il y a plus d'étoiles.
Il y a un peu plus d'étoiles.
D'accord.
Voilà. Et il y a beaucoup de gaz aussi. Donc il y a plus d'étoiles parce que c'est l'attraction gravitationnelle. Hein. Il y a, au centre de ces galaxies, il y a notamment un trou noir.
On sait qu'il y a un trou noir.
Trou noir parce qu'on voit les étoiles qui tournent autour très très vite. Et si elles tournent très très vite, c'est qu'il y a une masse très dense qui est au centre.
Qui les attire.
Qui les attire. Alors, même si on ne la voit pas, les relations, les lois de Kepler, enfin disons les lois de la gravitation qui sont assez simples et sont connues depuis plusieurs siècles, nous permettent de dire qu'il y a une masse très, très importante au centre. Et puis on connaît quand même la taille que ça a, et une très grande masse dans une toute petite dans un tout petit espace, ça s'appelle un trou noir, mais ça vous en avez déjà parlé,
il me semble. Parlé,
voilà.
Ailleurs,
donc il y a un trou noir, il y a beaucoup de masse et puis il y a plein d'étoiles autour qui tournent et voilà.
D'accord. Et est-ce que ça veut dire qu'on a une zone un peu plus lumineuse dans notre Voie lactée qu'on peut observer depuis la Terre? Est-ce qu'on moi si je me tourne vers le ciel, je peux trouver cette région?
Alors oui et non. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en théorie, oui, en pratique, c'est un peu difficile.
D'accord.
Cette région qu'on appelle le centre de notre galaxie, le centre galactique, est située sous nos latitudes assez bas sur l'horizon. Donc on ne le voit pas très bien sous nos latitudes.
D'accord, il n'est pas dans une position...
Non, il est pas pile à la
verticale.
Il
faudrait être plus au sud, donc, a priori.
Il faudrait être vers l'équateur ou dans l'hémisphère sud. Là, on verrait le centre de la galaxie vraiment de manière éclatante. C'est très, très beau. Alors ça, c'est pour le nom. Il y a aussi une autre partie du nom qui est que la galaxie n'est pas transparente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des étoiles.
Entre nous et le centre, il y a des choses.
Ouais, exactement.
Ça bloque la lumière.
S'il n'y avait que des étoiles, effectivement, le centre de la galaxie serait éminemment brillant. Ça serait formidable. Il y en a plein partout. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de la poussière et du gaz qui absorbent le rayonnement. Donc, ce n'est pas aussi brillant que ça. Donc oui, on arrive quand même bien à le repérer si on est sous de bonnes latitudes. Et non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'absorption quand même qui nous empêche d'aller voir très précisément ce qui se passe là-bas.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée de la constellation peut-être dans laquelle on peut observer? Est-ce que c'est une constellation qu'on voit plutôt l'été, l'hiver?
L'été, c'est
en ce moment, donc.
Voilà, c'est le Sagittaire et le Scorpion, c'est à peu près dans cette région-là.
D'accord, donc ça veut dire des constellations qui sont effectivement basses sur l'horizon.
Basses sur l'horizon, mais qu'on peut
assez
voir.
Assez reconnaissables.
Oui. Voilà,
oui.
Ça. Alors avec Antares, une étoile brillante.
Pour le Scorpion, ouais, c'est ça, une étoile très brillante.
Très, très rouge, une géante rouge. Voilà.
Vers le sud en début de nuit en ce moment.
Exactement. Plutôt vers l'horizon.
Voilà, d'accord. Donc, quand je suis tourné vers le sud en ce moment, je peux l'observer. Antares, une étoile très, très brillante, vraiment, vers le sud.
Rouge.
Et le Sagittaire, donc.
Le Sagittaire, un peu plus difficile. Ça a la forme d'une théière. Hein, si on prend une petite carte du ciel, c'est pas très brillant. Mais,
et par rapport au Scorpion.
C'est un peu à gauche.
C'est un peu à gauche.
Voilà.
Donc, éventuellement, quand j'ai un ciel bien dégagé vers la gauche d'Antares, je devrais trouver la région.
Exactement. Et puis, alors, ce qui est marrant, c'est que cette théière, donc le Sagittaire a la forme d'une théière. Et on a l'impression que la Voie lactée, c'est la fumée qui sort de la théière. Donc, la Voie lactée part presque.
Le thé est très chaud.
Est très chaud. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Ça désaltère.
Oui, ceci dit, hein, les pays où il fait très chaud, ils boivent du thé très chaud.
Voilà.
D'accord. Donc, ça, c'est vraiment une image de notre galaxie. Alors, c'est assez étonnant toujours de voir comment on est capable de décrire quelque chose qu'on ne voit pas, puisqu'on est à l'intérieur.
En effet.
Ça veut dire que, j'imagine, pour décrire les galaxies qu'on voit cette fois-ci de l'extérieur, c'est bien plus simple. Donc, on a beaucoup plus d'éléments.
Voilà, c'est en partie plus simple parce qu'on en voit beaucoup. Et comme on en voit beaucoup, on a une diversité d'objets et de structures et de types de galaxies, ouais. Ce qui nous permet d'avoir une vue globale des galaxies. Si on n'en voyait que deux ou trois à l'extérieur de nous, on serait bien embêté parce que ça serait difficile de faire des généralités. Mais là, on en voit toute une multitude. Donc, on arrive à faire des familles de galaxies. Et avec les observations qui ont été faites dans notre propre galaxie, on a réussi à replacer notre galaxie dans le contexte plus général
Des galaxies, d'accord.
En général, dans l'univers. Alors, il y a ce premier point. Il y a aussi le deuxième point qui est que vous disiez que ce n'est pas facile d'observer notre galaxie. Oui et non, parce qu'il existe des observations qui permettent quand même de traverser toute cette poussière. Ce sont les observations dans le domaine radio, hein, comme la radio qui est utilisée là,
oui.
Qui permettent de traverser la poussière sans aucun problème. Et donc, depuis les années 50, on a observé les bras de notre galaxie tourner vers nous et qui s'éloignent de nous,
hein,
tout dépend de l'endroit. Donc on avait déjà une idée vraiment précise de notre galaxie.
De sa forme,
voilà. De sa dynamique, on appelle ça, c'est-à-dire le mouvement des bras vers nous et qui s'éloignent de nous. Et donc c'est depuis cette époque-là qu'on connaît un peu la structure. Mais effectivement, en voyant d'autres galaxies, c'est bien plus simple, si j'ose dire.
On est à l'extérieur.
Alors certaines sont, si on reprend l'idée de la crêpe ou du pancake, certaines sont vues par la tranche. C'est-à-dire qu'on voit une sorte de petit filament tout plat. Et là, c'est difficile de savoir ce qui se passe dedans parce qu'on a toute la galaxie qui est concentrée.
Et ça nous donne un point de vue assez particulier qui nous permet aussi...
C'est très joli. On peut voir avec des télescopes d'amateurs dans certains cas. Alors, l'été n'est pas la meilleure saison, c'est plutôt l'hiver. Mais c'est extraordinaire à voir avec des petits télescopes. Sinon, on peut aller sur le web voir des images par les grands télescopes.
Et à l'inverse, on peut, j'imagine, voir des galaxies par le dessus.
Par la face. Par la face. Il doit y avoir un terme français plus clair, mais de face, voilà.
De face.
Ouais. Et là, on voit bien toute la structure spirale, c'est extraordinaire. Alors, il existe aussi d'autres types de galaxies que les galaxies spirales.
Là, pour l'instant, on parle que de galaxies.
Voilà, parce que la nôtre est comme ça, et puis c'est celle qu'on voit surtout dans les magazines. C'est vrai qu'il y a un aspect esthétique qui est impressionnant. C'est très, très joli, une galaxie spirale. Il existe d'autres types, une galaxie elliptique et galaxies irrégulières. Quand on ne sait pas comment les classer, on dit qu'elles sont irrégulières. Voilà, c'est simple, l'astrophysique.
D'accord, donc elliptique, ça serait une galaxie dans laquelle il n'y aurait pas ses bras. Toujours quelque chose de très fin aussi.
Ça ressemblerait plutôt à elliptique, comme le nom l'indique, comme un ballon de rugby.
D'accord.
C'est-à-dire que le bulbe devient complètement dominant par rapport au disque.
Et donc ça veut dire qu'on n'a pas cette espèce de forme très très plate.
Non, on a plutôt une forme en ballon plus ou moins étiré, d'accord. Ça dépend de l'histoire de la galaxie.
Et irrégulière, donc c'est n'importe quoi.
Irrégulière, c'est un peu n'importe quoi, comme les galaxies du nuage de Magellan qu'on peut voir dans l'hémisphère sud. On pense que les galaxies irrégulières dans notre univers proche sont des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles, c'est-à-dire des galaxies qui sont apparues... Alors, j'aime pas dire qu'ils sont apparus récemment, parce que la matière est là depuis tout le temps, mais disons qu'ils ont une évolution assez rapide récemment. Donc, elles sont complètement perturbées et elles n'ont pas eu le temps de se stabiliser.
Les formations stellaires déclenchent des perturbations.
Grosses perturbations.
Il n'y a pas de stabilité dans
exactement. D'accord. Et donc, le nuage de Magellan en son exemple. Et donc, ces galaxies-là n'ont pas de structure spirale claire et sont clairement pas elliptiques.
Donc, les galaxies irrégulières. Et bien après cette première découverte de notre galaxie et puis des différents types de galaxies, je vous proposais de marquer une première pause musicale. Nous nous retrouvons dans quelques instants.
Chers auditeurs, préférez Radio Hop à Téléflop.
C'était Eustache du Corroy, un compositeur français du XVIe siècle, dans le Requiem des rois de France.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Hop, la radio interne des hôpitaux. Sébastien vous accompagne en compagnie d'Hervé Daul, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Nous sommes ensemble pour parler des galaxies. On vient de voir comment on pouvait représenter notre galaxie, la Voie lactée, quand bien même on se trouve à l'intérieur.
Exactement.
On vient de voir qu'elle est composée essentiellement d'étoiles, avec une région centrale un peu plus dense en étoiles, avec un trou noir éventuellement.
Mm-hmm.
On avait vu aussi que on pouvait bien sûr découvrir de façon un petit peu plus optimale les autres galaxies, puisqu'elles sont loin de nous. On peut donc les voir de manière assez variée, sur la tranche, de face.
Exactement.
Et ce qui nous permet de connaître un tout petit peu plus ces objets. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup d'étoiles. Si on reprend le canon de galaxies, c'était
ouais.
100 milliards d'étoiles.
À peu près, oui.
Il y avait pas mal d'endroits de nébuleuses, hein, donc
des
endroits où il y a une formation un peu gazeuse, un peu plus dense que les autres régions. Du vide.
Hein,
on avait vu
pas mal de vide.
Pas mal de vide. Et puis, vous avez évoqué ce sujet qu'on entend assez régulièrement en astronomie, qui est la matière sombre.
La matière noire.
Noire,
sombre ou noire.
Ouais.
Alors, il y a aussi la
poussière. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, la matière noire, si je savais, j'en serais ravi.
D'accord.
Peu de gens savent, voire personne. C'est une énigme de l'astrophysique moderne. Comme beaucoup de choses en physique et en sciences en général, on observe des effets qu'on n'arrive pas à expliquer. On observe des effets dynamiques. Alors, un peu comme la Terre tourne autour du Soleil en un an, grâce à ça, on arrive à connaître la masse du Soleil. Ce sont des lois de la gravitation assez simples. Quand on observe les étoiles qui sont au bord de notre galaxie, on observe qu'elles ont une certaine vitesse de rotation
autour
du centre de la galaxie. Et on se dit, donc il doit y avoir une telle masse, parce qu'il y a une relation entre la masse et la vitesse de rotation, très
D'accord.
simple. Donc, on dit, facile, il y a telle masse dans la galaxie. Facile. Maintenant, si on compte les étoiles dans notre galaxie...
Donc notre fameux compteur d'étoiles.
Notre fameux compteur d'étoiles,
qui
voilà.
cette fois-ci, on lui dit, tu vas compter toutes les étoiles,
voilà.
bien sûr.
Donc on essaie de prendre un petit peu plus qu'un timbre-poste dans le ciel. On essaie de prendre plusieurs régions et puis on fait une statistique et on compte le nombre d'étoiles. Et puis il y a aussi du gaz et de la poussière. Ce sont des molécules. Il y a plein de molécules qui se baladent.
D'accord.
Il y a beaucoup d'eau, il y a des diamants qui se baladent dans la galaxie. Pas en grande quantité, mais suffisamment pour absorber la lumière et pour qu'on en observe les effets. Donc on fait la somme de tout ça et on se rend compte que il manque 90% de masse. C'est-à-dire que la
90%
voilà.
D'accord.
C'est-à-dire que le chiffre qu'on avait obtenu en estimant la masse avec la vitesse des
D'accord.
étoiles, ce chiffre, si on compte toutes les étoiles et tout, on en a que 10%. Il manque 90%.
Donc il y a une matière qui existe bel et bien a priori.
Exactement.
Qu'on ne voit pas.
Qu'on ne voit
c'est
pas.
Ça son nom.
Alors,
matière noire.
Matière noire parce que ça témoigne juste de notre ignorance du phénomène. Hein, c'est simple. Alors il y a pas mal de candidats. Hein. On pense pas que ça sera une particule miracle qui va tout expliquer cette
D'accord.
matière noire. Alors, ce n'est pas mon domaine de spécialité, hein, mais disons que ce que j'entends dire, c'est qu'il y a plusieurs candidats. Il y a des particules un petit peu exotiques, il y a peut-être les neutrinos qui sont aussi des particules un peu spéciales. Donc, on pense qu'il y a plusieurs familles de particules qu'on connaît quasiment pas ou très peu, ou soit qui sont prédites par la théorie qui n'ont jamais été observées, ou soit qui commencent à être observées mais dont on ne connaît pas vraiment bien les effets. Et on pense que la somme de toutes ces particules et de tous ces effets un petit peu bizarres pourrait expliquer cette masse manquante.
Alors, mais néanmoins, ça ferait 90% de la masse, et quand on regarde les particules, ce sont des petites choses, une
Exactement.
Particule, donc c'est jamais très très lourd.
C'est jamais très très lourd.
Ça veut dire qu'il y en a énormément.
Il y en a beaucoup.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc là, c'est un des pans de l'astrophysique qui reste encore quasiment
Exactement.
Vierge de toute...
C'est là où l'astrophysique et la physique des particules se parlent beaucoup aussi.
D'accord. D'accord, donc on est vraiment dans l'inconnu total.
Oui, oui, oui.
Néanmoins,
oui.
ça ne nous empêche pas de continuer à étudier ces objets.
Ça serait dommage.
Fort heureusement. Alors, il y a notamment une chose qui est très étonnante quand on s'intéresse aux galaxies, c'est que, on a vu qu'on connaît notre galaxie, sa forme, sa composition, qu'on peut regarder les galaxies dans le ciel, mais finalement, ça ne fait pas très très longtemps qu'on se dit que ces objets qu'on voit dans le ciel, avec des télescopes,
Exactement.
Ils sont ailleurs que dans notre galaxie.
Voilà. Exactement.
C'est très récent.
C'est très récent, ça date d'un peu moins d'un siècle, ça date des années 1920.
1920, d'accord.
Avec Edwin Hubble, qui est un astronome américain.
Avant d'être un télescope.
Voilà.
Pour les...
Effectivement, il y a toujours cette ambiguïté maintenant. En fait, je crois que c'est Emmanuel Kant, je ne suis pas très cultivé sur toutes ces choses-là, mais Emmanuel Kant a été un des premiers à imaginer ces univers-îles, c'est-à-dire comme des galaxies qui navigueraient dans l'espace, en dehors de la nôtre, dans lesquels il y aurait des milliards d'étoiles et des étoiles, et donc probablement des planètes autour. Bon, maintenant, on sait que c'est vrai dans notre galaxie. Il y a presque 200 exoplanètes qui existent, dont on a la preuve. Donc, ça, c'était il y a longtemps.
Il y a longtemps,
c'était plus du domaine de la philosophie.
Il fallait apporter des preuves,
voilà.
ces affirmations.
Alors, les galaxies sont observées depuis aussi très longtemps. Typiquement le XVIIe siècle, on observait ces nébuleuses dans le ciel, notamment Charles Messier et d'autres, Méchain, à l'Observatoire de Paris. Donc ils observaient ces petites taches laiteuses dans le ciel. Alors là, il faut nécessairement un télescope pour les observer.
Et donc l'invention du télescope, c'est fin du XVIIe, donc c'est pour ça qu'on peut des... D'accord.
Exactement. Début du XVIIe, mais bon, la lunette et le télescope, c'est le XVIIe, quoi.
Ouais.
Et en observant ces nébuleuses, les astronomes de l'époque se posaient beaucoup de questions, mais ils n'avaient pas forcément les moyens d'y répondre, parce qu'ils observaient des nébuleuses qui étaient assez larges et grandes et colorées, et puis ces petites nébuleuses un peu filamentaires sous forme de disques, enfin sous forme de spirales tout simplement, et jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne savait pas si ces nébuleuses étaient des objets dans notre galaxie, ou si... ces nébuleuses étaient en dehors de
d'accord,
notre galaxie.
D'accord, il y avait un jalon qui nous manquait, c'était leur distance en fait.
Leur distance. Avait,
d'accord, ouais.
Et ça a des implications très importantes parce que, bon, on peut se dire finalement une galaxie, est-ce que c'est un objet proche ou loin ? Bon, finalement, c'est une querelle d'experts. Mais en fait, ça a des implications, disons, pour nous en tant qu'êtres humains et en tant que. Quelle est notre place dans le monde ? Parce
ça
que
dimensionne...
ça définissait tout simplement la taille de l'univers.
L'univers, c'est ça.
Il y avait des facteurs 10 ou 100 dans la taille de l'univers qui étaient en jeu là. C'est-à-dire que si ces galaxies étaient dans notre galaxie, c'est-à-dire que l'univers était plus petit, entre guillemets, quelques centaines de milliers d'années-lumière, voilà, puis il n'y avait rien autour. Bon. Alors que si ces galaxies comme la nôtre étaient partout dans l'univers, tout d'un coup, la taille à interpréter et à ingurgiter, si j'ose dire, devenait mais quasiment infinie.
Gigantesque,
quasiment infinie.
Donc, y a, astronomique.
Bon, voilà, astronomique, voilà le terme. Donc, cette querelle enfin, allait au-delà de juste l'astrophysique. Alors, c'est Edwin Hubble qui, avec un grand télescope, le plus grand de l'époque, qui était en Californie, a mesuré ces galaxies avec un spectroscope, donc il a mesuré
il a analysé la lumière.
Analysé la lumière, c'est voilà.
Ça, j'ai avec pas son envie... spectroscope.
Voilà. Donc c'est une sorte de prisme, hein, ouais. Pour simplifier. Et il a observé qu'une grande partie des galaxies s'éloignaient de nous. Alors pas toutes, hein, la galaxie d'Andromède s'approche de nous, les nuages de Magellan se rapprochent de nous, parce qu'on est tous dans le groupe local, ça s'appelle. C'est-à-dire que les galaxies ont tendance à se mettre en amas de galaxies.
C'est-à-dire que ouais, donc, les galaxies ne sont pas dispersées n'importe comment dans l'univers. Elles font des paquets.
Elles ont tendance à se mettre en amas ou en filament, exactement.
D'accord.
Alors, il y a des galaxies quand même qui sont toutes seules dans leur coin, mais
ce
n'est pas la majorité.
D'accord. Et dans ces amas de galaxies, si on regarde, on peut constater qu'il y a des mouvements des galaxies
mouvements.
Les unes par rapport
exactement.
À d'autres.
Exactement. Et en général, elles tombent vers le centre de l'amas.
Elles sont attirées par la
elles
masse.
Elles sont attirées par la masse
qui est au centre.
Toujours pareil.
En général, ça veut dire que les galaxies se rapprochent.
Voilà. Voire se collisionnent, se rencontrent, voire fusionnent.
Ça arrive aussi.
Ça arrive.
D'accord.
Ça arrive très fréquemment, d'ailleurs. Beaucoup plus qu'on ne croit.
donc
c'est pour ça que la galaxie d'Andromède et les nuages de Magellan qui sont proches de nous, bah, ils se rapprochent, hein, parce qu'on est dans l'amas local. Mais les galaxies plus lointaines, elles, ne sont pas dans notre groupe local. Elles s'éloignent de nous. Alors ça, c'était un grand mystère.
Elles s'éloignent toutes de nous.
Elles s'éloignent toutes de nous, systématiquement.
Dès qu'on quitte cette espèce de petite famille de galaxies, tout le reste
s'éloigne. Systématiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelques cas, c'est vraiment... Quasiment toutes les galaxies s'éloignent de
nous. Et ça, c'est Hubble qui a découvert cet aspect-là.
C'est Hubble qui a découvert ça. Et en plus, il a pu mettre un nombre sur cet éloignement. Parce que c'est bien de voir quelle est la vitesse d'éloignement de ces galaxies, mais c'est encore mieux, enfin disons c'est complémentaire, d'avoir la distance.
D'accord.
Et c'est lui qui a découvert cette loi, qui s'appelle la loi de Hubble, hein, voilà, ouais. qui donne la distance en fonction de la vitesse d'éloignement.
D'accord, ça veut dire qu'en plus, elles ne s'éloignent pas de la même façon suivant leur distance.
Exactement.
Il y a une relation...
Une relation toute simple, c'est que plus la galaxie est lointaine de nous, plus elle s'éloigne vite.
Plus elle est lointaine, plus elle s'éloigne vite.
Voilà.
Alors, ça veut dire quoi, ça ?
Ah ben, voilà, ça veut dire que l'univers est en expansion.
L'univers est en expansion.
Voilà, grande découverte du XXe siècle.
D'accord. Et si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire si plus la galaxie était proche, plus elle s'éloignait vite, ça aurait eu une autre incidence sur la forme, ou du moins le...
Probablement, je ne sais pas à quelle explication on aurait pu aboutir.
Mais en tous les cas, c'est ça, d'accord. On dit que l'univers est en expansion parce que Hubble, Edwin Hubble, a montré que les galaxies donc, s'éloignaient, que je ne dise pas de bêtises, d'autant plus vite qu'elles étaient éloignées.
Exactement.
D'accord. Ça veut dire qu'elles s'éloignent à quelle vitesse si on prend une
galaxie ? Elles s'éloignent. Alors, tout ça est à l'échelle astronomique. Alors, j'ai des unités qui ne sont pas très... Là, c'est un peu une colle, parce que là, je parle en...
Non, mais ça veut dire qu'elles sont mètres par million d'années, dizaines de milliers de kilomètres par...
Non, pour les galaxies les plus lointaines, la vitesse apparente qu'on observe, c'est proche de celle de la vitesse de la lumière, par exemple.
Hein. D'accord, donc ça peut atteindre 300 000 kilomètres par seconde.
D'accord. Ah non, ça peut être vraiment faramineux. Donc, les...
Ça rigole pas.
Ça rigole pas,
c'est trop loin. D'accord.
Donc, les galaxies qui sont relativement proches de nous s'éloignent à des vitesses de quelques milliers de kilomètres par seconde.
Oui.
On appelle ça des galaxies proches, hein, 5-10 000 kilomètres par seconde, c'est complètement standard.
Standard,
c'est standard, on les observe avec des petits télescopes, même moi avec mon petit télescope, j'ai un tout petit télescope de rien du tout qui fait 9 cm de diamètre, on peut observer des galaxies qui sont à 10 000 km par seconde d'éloignement de
nous.
Donc ça c'est proche. Et puis on arrive très facilement à des vitesses qui sont proches de celles de la lumière.
Est-ce que ça veut dire que quand je vais regarder une galaxie, je peux éventuellement voir qu'elle bouge
Non malheureusement, parce que tout ça, les distances mises en jeu sont tellement grandes qu'on ne les voit pas bouger, nous, dans le ciel.
Elles sont tellement loin par rapport à cette vitesse d'éloignement que...
On ne voit rien.
On ne voit rien, ça ne bouge pas. Par contre, on peut imaginer qu'il y ait un véritable changement sur des échelles de temps. Est-ce qu'à l'échelle humaine, par exemple, à l'échelle des générations, on peut imaginer qu'il y a une différence entre ce que voyait Galilée et aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut imaginer que ce que voyaient les Grecs et aujourd'hui, il y a une différence à ce niveau-là?
On peut imaginer, mais je crois que c'est du domaine du négligeable. Voilà. Les choses qui évoluent dans l'univers visible, c'est les planètes, évidemment, ça on peut le voir. Tout ce qui est dans le système solaire. Ouais. Il y a aussi quelques étoiles proches de nous qui bougent.
D'accord.
Ça peut se voir, même à l'échelle d'une vie. Il y a des étoiles qui bougent très très vite. À l'échelle des galaxies, à l'échelle humaine, voire de quelques siècles, c'est impossible. Les processus mis en jeu sont de l'ordre du million d'années, à peu près. Une galaxie qui tourne autour d'une autre, une fusion de galaxies, c'est de l'ordre du million d'années, hein, pour dire ça, les choses.
Donc on est dans une échelle de distance et en plus une échelle de temps qui est assez...
qui est
très différente par rapport à ce qu'on peut connaître.
Voilà, par rapport à l'échelle humaine. Donc c'est ça qui est fascinant avec la physique, c'est qu'à la fois, il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas, genre la matière noire, le truc qui est juste à côté de nous, on n'arrive pas à savoir ce que c'est.
Ouais.
D'un autre côté, on arrive, grâce à une observation et une analyse raisonnée et à une méthode scientifique pertinente, on arrive quand même à retracer une très grande partie de l'histoire de l'univers. Même s'il y a évidemment des zones d'ombre, hein, il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Ne serait-ce que même le contenu de l'univers, on sait même
à
70%, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Bon. Mais on arrive quand même à voir une partie du puzzle, on a la grande trame, et c'est ça qui est fascinant en science.
Et ce, malgré des distances qui sont...
Des distances énormes, des échelles de temps qui pour nous, enfin même pour moi en tant qu'être humain normal, ça ne me parle pas. C'est parce que je suis physicien. Quand je suis dans mon bureau, je parle en millions, en milliards d'années, c'est mon outil standard. Mais quand j'essaie de me poser la question, voyons voir qu'est-ce que ça représente pour moi, là c'est très difficile d'appréhender ça.
On va revenir des choses un peu plus terre-à-terre, parce que nous avons marqué une nouvelle pause musicale, puis nous repartirons quelque part là-bas dans les galaxies dans quelques instants.
Radio Hop, la radio qui fait du bien.
Get a hit. your country so well. You served by the wrong personnel on that bombshell. Pray tell,
I've got the medicine to suit the mood you're in. I've got the antidote here.
C'était le groupe britannique Morsheba dans le titre The Antidote.
Voilà, une nouveauté. Toujours nos invités qui viennent avec leurs disques, certains. Quand j'y pense, je pense à leur dire. Alors on continue, hein, toujours à l'écoute de Radio Hop, la radio interne des hôpitaux. C'est une escapade céleste qui nous amène loin, loin, loin dans l'univers. Découverte des galaxies avec Hervé Dole, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Alors on a vu plein de choses déjà. On a vu à quoi ressemblait notre galaxie. Qu'est-ce qui la composait ? Des étoiles, un trou noir, de la matière sombre, une matière assez étonnante, des nébuleuses. On a vu un petit peu que les autres galaxies, finalement, bah, c'était pareil, qu'on pouvait les observer de façon un tout petit peu plus simple. Que ces galaxies, elles se regroupaient en paquets, et que ces paquets, bah, dès qu'on quittait le nôtre, on constatait que tous ces paquets de galaxies s'éloignaient de nous. Et, chose étonnante, plus ce paquet était loin, plus il s'éloigne vite, et donc que l'univers était en expansion.
L'expansion de l'univers.
C'est ça, l'expansion de l'univers.
Une des grandes idées du XXe siècle avec la mécanique quantique et la relativité générale.
Einstein.
Ça a vraiment transformé notre vision de l'univers.
Notre vision de l'univers, d'accord. Alors, à quoi ça sert d'aller, à part voir ça, l'univers qui est en train de s'étendre, à quoi ça sert d'aller regarder des galaxies de plus en plus loin ? Elles sont toutes identiques, ces galaxies, ou est-ce...
Alors justement, elles ne sont pas identiques. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas en astrophysique, mais il y a une chose très simple, a priori, qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment les galaxies se forment. Ça paraît tout simple, hein. Il y a de la matière, il y a des étoiles.
Enfin, on n'a pas de modèles informatiques qui sont capables de...
Des modèles, il y en a, mais qui reproduisent vraiment ce qu'on observe, il n'y en a pas beaucoup. Parce que, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais on sait que l'univers, à une époque très reculée, était très homogène. Très, très homogène. C'était comme un gaz très chaud, complètement homogène.
Pas de vide, c'est-à-dire, en l'occurrence... une répartition de tout.
Voilà, complètement comme une...
Une belle pâte à crêpes.
Comme, voilà, exactement, complètement homogène, d'accord, toute bien, etc. Et puis, bon, alors c'était en expansion aussi. Et aujourd'hui, quand on observe l'univers, clairement, il n'est plus du tout homogène. Il y a beaucoup de vide entre les galaxies. Et puis, dans les galaxies, c'est extrêmement structuré.
Il y a des grumeaux.
Il y a des grumeaux, voilà. Voilà, et puis il y a des étoiles, des planètes, d'accord, des nébuleuses. Donc, il y a on appelle ça un processus. Il y a un processus clé qui fait que l'univers, à un moment, devient inhomogène.
C'est transformé, d'accord.
C'est transformé, et puis ça a empiré, si j'ose dire. C'est-à-dire que les galaxies deviennent... Enfin, il y a de plus en plus de galaxies, etc. Donc, il y a vraiment ce genre de phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, évidemment, il y a des idées, il y a des modèles, il y a des observations. On commence à avoir... des idées un peu plus précises, mais il manque toujours quelques clés importantes. Alors l'idée d'aller observer les galaxies lointaines, c'est d'essayer d'apporter des réponses à cette question, comment les galaxies se forment, et puis pourquoi elles sont là, tout simplement, et pourquoi notre galaxie est-elle là aussi.
D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, en essayant d'observer plus loin, on a plus d'éléments pour essayer de comprendre ce qu'on prévoit par la théorie, ce qu'on observe... Localement,
enfin, exactement. Parce qu'il y a un phénomène clé qui est que plus on va loin, plus on voit dans le passé. Alors là, c'est aussi...
Plus on voit loin, plus on voit dans le passé.
Oui.
D'accord.
Parce que la vitesse de la lumière est finie. Donc, il faut un certain temps à la lumière pour parcourir une distance. Par exemple, là, je vous vois tel que vous étiez il y a quelques fractions de seconde.
D'accord.
Le temps que la lumière est réfléchie sur votre visage, d'accord, et parvienne à mes yeux.
D'accord.
Si on regarde la Lune, on la voit telle qu'elle était il y a à peu près une seconde. Le temps que la lumière mette une seconde pour venir vers nous. Alors c'est pareil pour les galaxies qui sont très très lointaines, à plusieurs millions voire milliards d'années-lumière de nous, la lumière met plusieurs millions ou milliards d'années à nous parvenir, et donc on a une image de cette galaxie dans le passé.
D'accord, donc ça veut dire aussi que quand on donne une distance en astronomie, on a une double notion d'éloignement et d'âge.
Exactement.
Aussi, c'est ça, d'accord.
Exactement.
Quand vous dites qu'on est un objet à 1 milliard d'années-lumière,
voilà,
ça veut dire aussi que... On le voit tel qu'il était il y a 1 milliard d'années. Alors, il y a la tempête qui se lève.
Exactement.
Dans le studio. Bon, Stéphane nous sauve en fermant la fenêtre. Voilà. Du vent. On ne va pas se plaindre. On ferme les fenêtres.
Ça alors
qu'on avait de l'air. Mais bon Dieu.
C'est formidable.
Il fallait essayer les ouverts.
On l'a attendu toute la journée.
Donc, revenons à nos galaxies. Donc, on est en... Oui. Donc, cette idée que plus un objet est éloigné, plus la lumière va mettre du temps à nous arriver. Et donc... On voit dans le passé, en fait.
On voit dans le passé. Donc, c'est
le métier de l'astronome, c'est de regarder dans le passé, finalement.
Voilà, on est un peu comme des archéologues. De toute façon, on n'a pas le choix. La physique est comme ça. Donc, plus on regarde des galaxies lointaines, plus
d'accord,
elles sont jeunes dans leur évolution.
Et donc, on peut espérer, alors, entre ce qu'on voit très loin et très près, reconstituer le
exactement,
fil.
D'accord. C'est l'idée. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des observations de plus en plus précises à toutes les distances, donc à toutes les époques, pour retracer le film de l'évolution des galaxies. Alors, évidemment, on ne verra pas une galaxie particulière évoluer sous nos yeux, parce qu'on avait dit tout à l'heure que les échelles de temps mises en jeu, plusieurs millions voire milliards d'années-lumière, ne nous permettent pas, nous en tant qu'humains, de voir ces processus
d'accord,
sous nos yeux. Par contre, on voit toute cette diversité de galaxies, et il suffit de prendre tous ces paquets de galaxies et d'en déduire des propriétés générales sur cette évolution.
D'accord. Plus je vais profond voilà, dans l'univers, en fait, plus je vais établir pour chaque profondeur des
exactement,
caractéristiques.
Et... Des caractéristiques générales des galaxies. D'accord. Alors, on va essayer de retrouver les mêmes types de galaxies. On va essayer de retrouver des spirales, par exemple, ou des elliptiques, et puis voir comment elles ont
exactement,
évolué
d'accord,
ou pas. Et alors, il se passe cette chose très amusante, c'est que quand on regarde à très grande distance, on ne trouve plus de spirales, on ne trouve plus d'elliptiques, on ne trouve plus de galaxies standards.
Telles qu'on les voit très près de nous. D'accord.
Très près de nous, voilà. Par contre, on voit énormément de galaxies en fusion. C'est-à-dire des galaxies qui sont en train de se rentrer dedans,
d'accord,
en collision. Le terme, c'est fusion. Alors, ça n'a rien à voir avec la fusion
traditionnelle.
C'est fusion au sens, elle se rentre dedans.
Elle fusionne, en collision. Voilà, c'est ça. Elle
voilà.
Se...
Et alors, ça peut un petit peu se comprendre aisément en disant que l'univers est en expansion. Ça, on l'a observé, c'est sûr, tout marche bien. Quand on était dans le passé, l'univers
était plus étroit. Donc.
Plus étroit, d'accord, en quelque sorte. Alors, c'est pas facile de dire ça parce que ça s'étend dans quoi, etc. En fait, c'est tout l'univers qui s'étend. Il n'y a pas de borne. Donc, l'univers était plus petit, entre guillemets, plus dense. Donc, c'était plus facile de rencontrer une autre galaxie et
de
se collisionner que maintenant.
Dedans, ouais, d'accord.
Voilà. Donc, c'est ce qu'on observe. On observe que, dans le passé, les galaxies avaient tendance à se collisionner beaucoup plus fréquemment que maintenant. Et donc, vous prenez deux belles spirales qui se collisionnent, et ça donne plus une belle spirale.
Spirales,
ça donne un
ça.
Truc complètement perturbé. Et puis, quand on va encore plus loin... on voit ces grumeaux de spirales, donc c'est proto-galaxies. Enfin, on ne les appelle pas encore proto-galaxies parce que ça ressemble déjà à de belles galaxies. Mais... Donc, ce sont des galaxies qui ressemblent, à, comme je disais, à pas grand-chose par rapport à ce qu'on connaît localement.
Localement, d'accord.
Mais on est en train de voir sous nos yeux ce qu'on appelle l'évolution des galaxies. C'est-à-dire que les galaxies n'ont toujours pas été là sous la forme spirale, elliptique, spirale barrée traditionnelle ou irrégulière. À moins de toutes les classer en irrégulière, mais enfin, là, on ne fait plus de la physique, enfin, ça devient plus amusant.
C'est plus
enfin,
facile.
Il faut classer quand même. Enfin, il faut surtout comprendre, parce que classer, bon... Donc, on observe ces galaxies qui évoluent en forme, et puis on se rend compte aussi que leurs propriétés évoluent. Genre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais leur rayonnement a varié en intensité et en couleur. Elles sont devenues plus rouges ou plus bleues, selon leur, ou même dans l'infrarouge, enfin, dans l'ultraviolet.
L'énergie qu'elles libèrent est différente.
Est différente, voilà, selon les phases, selon qu'elles forment beaucoup d'étoiles, selon qu'elles sont en collision ou pas. De temps en temps, elles deviennent calmes. Il y a des épisodes où elles sont calmes, et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui leur rentre dedans, donc elles deviennent vraiment actives. Et puis, de temps en temps, il y a un trou noir qui s'allume, on ne sait pas trop comment, on commence à avoir des idées. Mais... Donc le trou noir s'allume, pof, ça illumine tout le centre de la galaxie, ça grille en quelque sorte tout ce qu'il y a dans le centre de la galaxie. Et tout ça, on l'observe. Donc il y a toute une zoologie, en quelque sorte, des galaxies.
D'accord, on est capable de faire un état des lieux assez précis.
Alors, oui, de ce qu'on observe, assez précis. On comprend pas tout,
mais on arrive. Voilà. On a un cheminement.
On a un cheminement grossier. Quand on va dans les détails, c'est toujours terrible. Mais c'est là qu'on va avoir des réponses intéressantes.
Dans le futur, et c'est pour ça qu'il faut continuer à observer.
Exactement.
Ces objets.
Et donc tout ça participe de la quête de d'où venons-nous, allons-nous. Ouais, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la cosmologie, dont moi un petit peu, qui étudient l'univers à grande échelle, et puis on étudie aussi les galaxies, comment elles se forment, comment on en arrive jusqu'à notre galaxie, à nous finalement. Et puis il y a d'autres gens qui étudient comment les étoiles se forment, comment les systèmes planétaires se forment. Tout ça participe de comment notre univers en est arrivé là, et comment la matière s'est structurée pour arriver à un univers tel qu'on l'observe
aujourd'hui. Connaît aujourd'hui.
Voilà.
Je vous propose de marquer une dernière pause musicale, et nous allons essayer de voir si le vent n'a pas tout emporté dans les parages.
Plutôt radio hôpital que télé banale.
C'était Phaéton de Jean-Baptiste Lully et Philippe Kino, mis en musique par Marc Minkowski.
Un deux spécialistes de la musique baroque avec nous ce soir.
Lully,
j'ai assisté à une discussion assez obscure pour moi.
Lully, la quintessence de la musique française baroque.
Voilà. Bon. Revenons à un sujet qui connaît un peu mieux, les galaxies donc. Parce que Hervé et Stéphane étaient partis dans des délires, bon, des discussions assez
baroques.
Alors les galaxies, donc, on va finir cette émission quand même, on reprendra cette discussion ensuite. Alors, donc les galaxies, on a vu, bon, notre galaxie, la Voie lactée, qu'on connaît maintenant bien, on a vu que tout ça était allé en, en s'étendant dans l'univers, que ces galaxies, justement, plus je pouvais les observer loin, plus j'allais pouvoir les regarder dans leur jeunesse. J'avais une notion de distance et d'ancienneté, donc vraiment, oui, de jeunesse. Et alors, je crois qu'il y a un sujet qui vous intéresse plus particulièrement.
Oui, bah oui.
C'est quand on regarde un petit peu plus loin que toutes ces galaxies encore.
Voilà. Alors, collectivement, une découverte a été faite il y a quelques années, une dizaine d'années. Moi, je n'ai pas participé. J'étais trop jeune encore. On a découvert que les galaxies émettaient beaucoup de rayonnement dans l'infrarouge. Alors, on connaît les couleurs du spectre, hein, le bleu, le vert, le rouge. Mais on se rend compte que les galaxies émettent aussi dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge, dans le domaine des ondes radio, enfin dans tout le spectre électromagnétique qui a été abordé, je crois, lors d'une émission.
Ouais, ça, on peut le rappeler peut-être brièvement. Donc, on a le spectre du visible qui correspond à une certaine énergie.
Voilà.
Le soleil, notamment, en particulier, qui est cette couleur un peu jaunâtre, là, émet principalement dans ce domaine du visible. Mais donc, ce spectre se compose, alors, d'un côté, les énergies les plus grandes, donc voilà. Avec les rayons X
et les rayons gamma. Enfin, les rayons UV. Gamma d'abord, les rayons X, les rayons UV, ultraviolets.
D'accord.
Dont certains passent un petit peu sur Terre, ce qui cause le bronzage de temps
d'accord.
en temps.
Et de l'autre côté.
Et de l'autre côté, donc à plus basse énergie.
Rouge.
Voilà, plus rouge, on a l'infrarouge et puis le domaine radio, pour dire simple. Donc des ondes radio.
Et donc quand on veut observer, on va peut-être le préciser, même si c'est vrai que le temps est compté, mais quand on veut observer ces différentes énergies, il suffit de prendre un tamis. Dont les mailles sont plus ou moins espacées.
Exactement.
C'est ça. Et donc, plus l'énergie est grande,
exactement.
Plus la maille doit être serrée, et inversement. Exactement. Donc, pour observer comme vous le faites dans l'infrarouge, il vous faut des mailles qui sont assez
grandes.
Assez
voilà.
grandes
donc, il faut
ça.
Des télescopes dont la qualité optique est moins bonne par rapport aux télescopes optiques. Et le pire, c'est dans le domaine radio, où on peut observer des galaxies avec un grillage, tout simplement.
C'est ça,
au
voilà.
sens propre.
Ça, c'est une antenne,
avec
une antenne
centimètre
de télé,
de côté,
en fait. Hein, de toute façon.
C'est, bah, exactement, ouais, tout c'est... à fait. Et donc, on s'est rendu compte qu'en infrarouge, les galaxies émettaient énormément d'énergie. Et pourquoi on s'est rendu compte de ça tardivement? C'est parce que c'est difficile techniquement d'observer dans l'infrarouge. L'atmosphère absorbe quasiment toute l'énergie qui vient de l'infrarouge.
Infrarouge, d'accord. Donc il faut aller dans l'espace.
Il faut aller dans l'espace. Alors, c'est long, coûteux, difficile. Faire un satellite, c'est jamais très simple. Heureusement, les agences européennes, notamment, le font très bien. Donc, grâce à ces télescopes spatiaux, comme le télescope Hubble, maintenant, hein, de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, il y a eu d'autres télescopes dédiés à l'infrarouge.
Spécifiquement,
parce qu'il ne s'agit pas des mêmes télescopes. Il faut des caméras spéciales, comme des caméras numériques, mais spéciales infrarouges. Mmh. Donc, il faut les refroidir très froid.
C'est ça, puisqu'on est en train d'observer quelque chose qui est froid. Il faut pouvoir.
Il faut pas être ébloui par le télescope.
Il faut pas être chaud. Ouais,
voilà,
ça, d'accord.
Donc on refroidit à des températures absolument invraisemblables, moins 270 degrés Celsius à
d'accord.
peu près. Il faut refroidir le télescope. Donc ce sont des technologies très très difficiles. C'est pour ça que le premier télescope infrarouge jamais lancé, ça date des années 80. Donc c'est très très récent.
C'est très récent
dans l'histoire
ouais,
de l'humanité. Si vous voulez, quand ce satellite qui s'appelait IRAS a été lancé, disons du jour au lendemain, on a doublé le nombre d'objets connus dans l'univers. Parce qu'avant, on ne pouvait pas les observer depuis le sol. Ce satellite a été le premier œil infrarouge à regarder ce qui se passait. On a découvert autant d'objets que ce qu'on connaissait avant.
D'accord, c'est ça.
Donc c'était
notre œil n'est sensible hein,
qu'au spectre visible.
Et donc tout ce qui est ailleurs, on ne peut pas le
on
voir.
On ne peut pas le voir. Et pareil avec les télescopes. Donc l'infrarouge est une science assez récente. Et puis donc il y a eu plusieurs télescopes. Il y a un télescope après tous les 10 ans, un télescope spatial. Tantôt européen, tantôt américain surtout. Japonais maintenant, il y a un nouveau télescope japonais qui marche très bien. Donc on a observé que les galaxies observent à peu près la moitié de leur énergie dans l'infrarouge. Alors ça a changé un petit peu la donne parce qu'on pensait à la fin des années 90, fin milieu des années 90, avoir à peu près compris comment se passait l'évolution des galaxies et les processus. Et puis tout d'un coup on se rend compte, patatras, il y a la moitié de l'énergie qu'on n'avait pas prise en compte et qui se trouve dans l'infrarouge et donc il a fallu aller observer dans ce domaine-là. C'est ce qu'on fait, c'est très excitant, très amusant. On n'a jamais assez d'observations parce que voilà, on n'a pas jamais assez de temps.
Vous observez avec quel télescope?
Alors là, en ce moment, on observe avec un télescope qui s'appelle Spitzer, qui est un télescope de la NASA. Et j'avais fait ma thèse avec le télescope européen ISO, qui était en gros un précurseur, qui a été extraordinaire, qui nous a permis de voir les galaxies comme jamais on les avait vues. Et Spitzer permet d'aller beaucoup plus loin, évidemment. Et puis, dans quelques années, on aura Herschel et Planck, qui sont des télescopes européens, spatiaux, qui vont aussi voler. Donc là, c'est à peu près équilibré, le match États-Unis-Europe.
Voilà.
Et donc, on observe avec Spitzer, et grâce à ça, on observe des galaxies très lointaines dans l'infrarouge. Et surtout, on a réussi à résoudre cette énigme du fond de galaxie, qui était que, maintenant, on a identifié les galaxies responsables de toute cette énergie dans l'infrarouge. Alors, je suis peut-être pas très clair, mais en
d'accord,
gros,
c'est-à-dire que quand on regarde très loin, à un moment donné, on va constater qu'il y a une zone continue,
voilà, un fond de rayonnement.
Fond, voilà, voilà, ça, c'est vraiment une espèce de barrière dans l'infrarouge.
Exactement.
Puisqu'on verra dans quelques secondes qu'il y en a un autre, et que ce fond infrarouge est lié à des galaxies,
la présence de galaxies, voilà,
et des galaxies particulières, enfin des galaxies très jeunes, je sais pas.
Pas forcément jeunes, ce sont des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles.
D'accord.
Donc, ils sont très obscurcis et qui émettent l'essentiel de leur énergie dans l'infrarouge. Et une des découvertes qu'on a fait récemment, c'est que ces galaxies, finalement, ne sont pas si lointaines que ça. Elles sont assez proches de nous. Elles forment beaucoup d'étoiles. On appelle ça des galaxies à flambée de formation d'étoiles.
D'accord.
Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, elles se mettent à y a des étoiles qui jaillissent de
partout. De d'accord, partout.
Ouais. Et donc, elles émettent énormément d'énergie dans l'infrarouge. Parce que quand une étoile naît, elle émet surtout dans l'infrarouge parce qu'elle a un cocon de poussière autour d'elle, un cocon de molécules. Donc,
poussière qui va absorber,
qui va absorber le rayonnement visible.
Énergie,
Et cette poussière va chauffer, puis réémettre tranquillement
d'accord.
dans l'infrarouge. Donc ça nous cache tout ce qui est dans le visible. Et grâce à ça, on a découvert l'origine de ce fond. Et alors, pour simplifier, on peut dire que la nuit n'est pas noire. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de la pollution lumineuse. Mais quand on observe la nuit avec nos yeux, on voit que la nuit est noire. Mais si on avait des yeux infrarouges et qu'on était en dehors de l'atmosphère, on se rendait compte que la nuit serait très brillante à cause de toutes ces galaxies
d'accord.
infrarouges qui sont partout. Et il y a énormément d'énergie.
Et alors, quand vous dites un fond galactique, si ce n'est pas les galaxies les plus lointaines, ça veut dire que l'idée du fond, quand qu'on a, nous, t'es rien,
exactement.
C'est la limite.
Oui. Hein,
alors
oui.
que là, ce n'est pas forcément une limite.
C'est pas forcément
ce qu'on
limite.
Appelle donc le fond, c'est en
un
fait,
fond diffus,
c'est quelque chose d'homogène en tous les cas, à une certaine distance.
Essentiellement homogène. Alors, il n'y a pas de notion de distance. C'est tout simplement, quand on a un petit télescope, on ne voit pas très bien les galaxies individuelles. Donc, on voit quelques galaxies très brillantes. Et puis, comme on n'a pas assez de sensibilité, eh ben, on voit du rayonnement derrière qu'on n'arrive pas à voir précisément. On n'arrive pas à voir les galaxies individuelles. Donc, c'est essentiellement dû à des limitations technologiques. L'énergie, elle est là. Hein, l'énergie, elle part pas, elle disparaît pas. Donc, quand on a un petit télescope, on voit quelques galaxies brillantes. Et puis, ce fond derrière. Mais quand on a un télescope beaucoup plus puissant comme Spitzer et puis après avec Herschel, là on arrive à voir les galaxies qui nous apparaissent. Alors elles ne sont pas à une distance particulière, mais elles sont distribuées sur plusieurs distances. Et on arrive à les repérer.
D'accord, donner leurs caractéristiques.
Alors si j'étais méchant, je dirais notre découverte n'a aucun... Enfin, il n'y a aucun mérite, c'est juste qu'on a un meilleur télescope.
Les instruments sont meilleurs.
Et puis notre compréhension va avec, donc on arrive maintenant à bien caractériser
bien expliquer tout ça. D'accord, alors le fond dont on vient de parler, qui est le fond diffus galactique,
alors
extra-galactique,
voilà, de galaxies,
n'a rien à voir, pour terminer cette émission, avec ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui lui est une véritable barrière, là pour le coup,
exactement.
De
l'univers
d'observation.
Visible.
C'est-à-dire qu'on sait, c'est un rayonnement qui donc est à 3
degrés Kelvin, à peu près.
Kelvin,
donc moins 270,
moins 270 degrés, c'est ça, et qui, lui, vraiment une frontière.
Exactement.
C'est ça.
Une frontière pour la lumière. Et donc, ce rayonnement baigne tout l'univers. Donc pareil, la nuit n'est pas noire, parce que dans le domaine radio, il y a énormément d'énergie dans ce domaine radio qui sont dues à ce rayonnement cosmologique. Et ce rayonnement a été émis quand l'univers était très très jeune, quand il était essentiellement homogène, il n'y avait pas de galaxies, pas d'étoiles, rien. Il était très très chaud, un peu comme une étoile en quelque sorte. Hein. Il avait 3000 degrés Kelvin, enfin ou Celsius, c'est pareil. Il avait 3000 degrés de température et il était très chaud, très chaud. Et puis à un moment, la température s'est baissée, enfin a descendu parce que l'univers est en expansion. Et là, l'univers est devenu transparent. Donc
d'accord, peu à peu.
La lumière est sortie de ça et c'est ce qu'on observe aujourd'hui.
Et depuis, l'univers se refroidit.
Se refroidit tout le temps, voilà.
Hervé Dole, merci de nous avoir accompagnés
hein,
cette soirée chaude mais venteuse. Stéphane, merci à toi. Bonnes vacances.
Merci.
Merci à vous et bonne écoute de Radio Hop.
Ich habe keine Ahnung. bonne nuit. Bonne nuit, les amis.
Une douce nuit. Douce nuit pour vous, les amis.
Radio Hop, il est 22h.